Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table comme fait culturel majeur et comme enjeu global. Une émission en partenariat cette semaine avec le magazine Version Fémina que dirige Catherine Rouac. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Tous mes vœux Catherine.
Mais tous mes vœux également.
Nous sommes encore avant la fin du mois de janvier, c'est donc le premier dimanche de janvier où vous nous rejoignez. Comme chaque dernier dimanche, vous allez nous proposer la cerise sur le gâteau. De quoi donc allez-vous nous parler ?
Eh bien, je vais vous parler d'étoiles Michelin qui ont été décernées lundi dernier.
À tout à l'heure, 12h25. Bonjour chère Natacha Triou.
Bonjour Caroline.
On vous retrouve tous les dimanches pour la Madeleine 2 aux alentours de 12h15. Le souvenir gustatif de quelle personnalité aujourd'hui ?
De l'acteur Omar Sy.
Ah, tout à l'heure. Et est-ce que toutes les deux, vous mangiez à la cantine quand vous étiez enfant ?
Oui.
Eh oui. Absolument.
Et est-ce que vous avez des bons souvenirs ?
Malheureusement, non.
Catherine ?
Je cherche, étrangement, je ne trouve pas.
Eh oui, on associe souvent la cantine à ce qui est mauvais. Qui n'a pas le souvenir de blettes noyées dans la béchamel, de salades de céleri ramollies, d'endives amères au jambon sans goût, d'épinards en branche qui restent coincés dans la gorge, ou encore de steaks caoutchouteux et de pâtes en bouillie. J'ai pris mes propres souvenirs pour faire cette entrée en matière. 2 enfants sur 3 en moyenne y mangent au moins une fois par semaine de la maternelle au lycée et on compte quelques 7 millions de demi-pensionnaires en France. C'est dire que le sujet concerne beaucoup de monde. Alors comment faire pour que les enfants mangent mieux à l'école ? Manger des bonnes choses à la cantine, est-ce possible ? C'est le plat du jour aujourd'hui.
Je comprends pas maman que ça t'affole, ce qu'on mange à la cantine de l'école. Ils l'ont bien précisé, tout est pulvérisé, traité, piqué, aseptisé, ça peut pas nous peser. Crois-moi qu'avec toutes ces vitamines, le chlorate et la pénicilline, qu'il y a dans les épinoches et les chipolatas, y a pas un asti bloche qui viendrait y faire sa casse-bas. C'est bon pour la santé, ohé, tous ces produits traités.
Et Pierre Perret le chantait déjà il y a quelques années de cela, en 1994, c'est bon pour la santé. Pour parler des cantines scolaires aujourd'hui, Sandra Franc-René est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous êtes l'auteur du livre noir des cantines scolaires paru aux éditions Le Duc et vous êtes également membre du collectif Les Enfants du 18 mangent ça. Les enfants du 18, hein, on n'est pas du 18e, c'est le 18e arrondissement de Paris. Mais les enfants du 18 mangent ça. C'est quoi d'ailleurs cette association, ce collectif ?
C'est pas une association, c'est des parents qui spontanément se sont intéressés à la cantine de leurs enfants et qui se sont... En fait, on s'est réunis parce qu'on a trouvé qu'il y avait un problème et il n'y a pas d'existence légale en fait. Hein,
c'est une association de parents, même, mais oui, au sens de réunion, de collectif.
Voilà, exactement.
Gilles Bérol est avec nous, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes adjoint au maire de Moinsartoux dans les Alpes-Maritimes. Vous êtes présidente de l'association 1 plus bio et membre de la MEAD, la Maison d'éducation à l'alimentation durable de Moinsartoux. Alors, manger mal à la cantine, est-ce que c'est une fatalité ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est un cliché qu'on mange mal à la cantine, que les gamins reviennent très souvent le soir en n'ayant mangé que du pain ou en ayant mal au ventre, comme le chantait mal au bide, comme le chantait Pierre Perret ? Je me tourne vers vous, évidemment, Sandra Franc-René, puisque le livre noir des cantines scolaires, ça parle de ça quand même.
Après,
avant tout.
Je pense que c'est comme les trains qui arrivent à l'heure, hein, on en entend rarement parler. Là, c'est sûr que c'est plus facile. En général, les enfants qui mangent bien ne le précisent pas. Et là, l'idée, c'était de... C'est vraiment partie d'une expérience que le livre noir, vraiment, j'insiste, je ne suis pas allée enquêter dans toutes les cantines de France pour savoir où on mangeait bien ou où on mangeait mal. Je suis partie d'une expérience qui est en l'occurrence le 18e, pour déjà me rendre compte à quel point c'était compliqué la cantine. Le fonctionnement, c'est une vraie usine à gaz. Et après, donc, décrypter ça pour que les parents soient ensuite en mesure de comprendre ce qui se passe et ce qu'on sert à leurs enfants. Et pas juste se limiter au menu. Parce que souvent, le matin, on dépose ses enfants, on regarde le menu, on se dit, ça a l'air sympa, en plus, c'est bien tourné. Pour un peu qu'il y ait des labels bio et compagnie, on se dit que, c'est génial. Et en fait, l'idée de ce livre, c'est de donner toutes les clés aux parents pour qu'ils puissent vraiment décrypter et qu'ils aillent voir si ce qui est servi à leurs enfants est bon ou pas. Et j'ajoute même que, je ne suis même plus sur une problématique de goût dans ce livre, hein, parce que si on a tendance à dire c'est bon, c'est pas bon. Là, on est carrément sur une problématique de santé publique, c'est-à-dire est-ce que c'est dangereux ou pas ?
Carrément.
Ben, carrément.
Et qu'est-ce que vous répondez ?
Que potentiellement ça peut l'être, puisque dans de nombreux établissements, on a supprimé ce qu'on appelait les cuisines intégrées. pour externaliser vers des grosses usines de production, des cuisines centrales, où là, en fait, c'est le règne des produits industriels et de l'ultra transformé. Et on sait très bien, et de plus en plus, il y a des études qui sortent et qui corrèlent. Il y a eu le rapport du député Prud'homme de la France Insoumise qui est sorti juste après mon livre, qui montre tous les dangers de la nourriture industrielle sur la santé. Risque potentiellement de cancer, de maladies chroniques, d'obésité, enfin vraiment de diabète, je veux pas rentrer là-dedans. Mais faut pas oublier que la plupart des enfants mangent tous les jours à la cantine. Et quand en plus on sait que cette nourriture est souvent, enfin, est potentiellement cuisinée ou réchauffée dans des barquettes en plastique qui en plus donc vont relarguer des perturbateurs endocriniens, on est vraiment en droit de se dire qu'il y a un problème de santé publique.
Et Gilles Perrol ?
Alors, effectivement, ça dépend dans quelle cantine on déjeune. Alors, à Montsartou, nous,
on déjeune bien,
on a une cantine 100% bio. On mange des bonnes blettes, puisque vous évoquiez les blettes qui poussent dans la ferme municipale.
C'est tellement bon, les blettes, quand c'est bon.
Exactement, dans la ferme municipale de la commune. Et les gamins, d'ailleurs, des fois, vont même les ramasser eux-mêmes pour les déjeuner après. Et la tourte et blette est quand même une spécialité niçoise, donc c'est logique de la retrouver. Mais plaisanterie mise à part, on est capable, à Montsartou, comme dans d'autres cantines qui sont au sein du club du territoire M plus bio, c'est-à-dire que lorsqu'un élu, une équipe municipale décide de mettre de la qualité dans la cantine, c'est possible. Nous, on les appelle les cantines rebelles. Alors forcément, c'est parce que c'est pas encore la majorité et ils portent un vent nouveau. Mais elles sont de plus en plus nombreuses à choisir de cuisiner du bio, du local, du fait maison. Et je dirais même, pour contredire un peu Sandra, mais gentiment, parce qu'on se connaît bien, une cuisine centrale, dans l'absolu, peut aussi faire de la qualité. Pour peu qu'elle mette les moyens de travailler des produits.
Il ne faut pas nécessairement qu'elle soit intégrée pour vous.
C'est mieux. À Montsartou, je les ai intégrées, c'est mieux. Mais quand le modèle existe et que la cuisine centrale existe, il est difficile de recommencer tous les investissements. Mmh. Ceci dit, les matières qui rentrent dans cette cuisine peuvent être différentes et on peut faire rentrer des légumes, on peut les cuisiner, on n'est pas obligé d'avoir des produits ultra transformés, effectivement. La cantine de Bègle, par exemple, qui a une cuisine centrale, n'utilise pas de plastique dans son transport, donc c'est possible aussi. Donc tous ces enjeux, sait qu'on a des solutions différentes et il faut vraiment que c'est un message à passer aux élus, c'est qu'ils prennent rapidement conscience des enjeux de santé publique et des enjeux pour l'environnement.
Mais juste pour rebondir sur ce que dit Gilles, je suis complètement d'accord. Hein, la cuisine centrale n'est pas forcément le problème. Ça devient un problème quand là, on concentre. Nous, dans le 18e, la cuisine centrale, c'est 14 000 repas. Donc forcément, à concentration industrielle, forcément, on a des logiques industrielles. Après, si on a des unités, des cuisines centrales à plus petite échelle, mais il y a des cuisines centrales où c'est encore bien plus que ça. Donc quand on a des milliers d'enfants à chaque jour, forcément, on se rend bien compte que c'est compliqué d'amener du produit brut à cuisiner sur place.
Et puis, alors vous parliez justement cet ennui, ce problème majeur de santé publique. Il y a effectivement le goût, puisqu'à partir du moment où on parle des cantines, souvent on dit que c'est pas bon. Donc c'est vraiment la question du goût qui vient en premier quand on pose la question aux enfants. C'est très important que vous rappeliez, Sandra Fanronet, que votre livre n'est pas une enquête sur les cantines scolaires en France et qu'elle part d'une expérience. Parce que quand on lit votre livre, on se dit effectivement, oups, c'est pas terrible, et en particulier cette histoire des cuisines centrales. Mais d'après une étude de l'INRA et de MS Nutrition parue en 2017, les repas des cantines scolaires françaises sont jugés de qualité nutritionnelle en moyenne très bonne. Et une étude de deux sociologues de l'École des hautes études en sciences sociales en 2016 a montré, quant à elle, que les enfants donnent en moyenne 7 sur 10 à leur cantine. Donc on voit bien que ça n'est pas effectivement une généralité ou que ça peut être aussi un cliché, les choses s'améliorent. Mais il y a quelques points noirs, comme celui que vous pointez des cuisines centrales. Il y a la question des apports nutritionnels. On vient de voir, selon Santé publique France, que les nouveaux conseils nutritionnels, au slogan des 5 fruits et légumes par jour, se sont ajoutés les légumes secs, les fruits à coque, les céréales complètes, et suggèrent de diminuer la viande. Mmh. Est-ce que dans les cantines, dont vous avez vu la trace pour vous, Sandra Fanronet, et vous, Gilles Perrol, dont vous vous occupez, vous savez à quels critères, justement, nutritionnels obéissent les cantines?
Moi, je vais laisser Gilles répondre.
Gilles Perrol.
Oui, alors, il existe un seul texte officiel qui s'applique aux cantines, c'est l'arrêté du 30 septembre 2011, et qui régit la fréquence de service des natures des aliments. C'est-à-dire que X fois des fruits et des légumes sur 20 repas, pas trop de produits gras, donc ça c'est un référentiel. Ceci dit, ça ne parle pas de la qualité des produits qu'on emploie, et Ce qu'on constate, c'est que cet arrêté va forcément devoir évoluer au regard, effectivement, de ces nouveaux repères nutritionnels qui ont été proposés par l'ANSES et validés par le Haut Conseil de la Santé publique. Et il y a des choses extrêmement intéressantes, effectivement, l'apparition des légumineuses, l'augmentation des fruits et légumes, c'est à minimum 5 fruits et légumes, c'est-à-dire qu'ils vont même au-delà. Et pour me faire plaisir, la première fois que des repères nutritionnels évoquent aussi le bio, puisqu'ils conseillent pour l'ensemble de la population, d'ailleurs pas que dans les cantines, de manger au moins 20% des légumineuses et des céréales en bio. Donc ce qui est une grande première pour une référence nationale. Et nous, on constate à M plus Bio, on a un observatoire de la restauration collective. Et par exemple, 86% des collectivités qui travaillent en bio, en local, travaillent aussi la diversification des protéines. 86%, c'est énorme. Et on a souvent un repas végétarien ou végétal par semaine. Nous, à Montsartou, on est allé au-delà, on ne sert de la viande plus que 2 fois par semaine sur les 5 repas.
Et les légumes sont 100% bio.
Alors nous, tout est 100% bio. La restauration scolaire de Montsartou est 100% bio. Les légumes sont bio et produits dans la ferme municipale.
Alors Sandra Franc-René, est-ce qu'introduire du bio, c'est la panacée ?
Alors ça dépend, il y a bio et bio. Alors oui, en soi, évidemment, il faut du bio. Là, je dirais jamais rien contre ça et je crois qu'on est tous d'accord. Après, dans la tête des gens, souvent, le bio, ça veut dire que c'est équilibré, ça veut dire qu'il y a des vitamines, ça veut dire que c'est bon pour la santé. C'est pas vrai. On peut avoir tout à fait des produits industriels, donc qui n'ont absolument aucune vitamine, qui sont gavés de sucre et qui sont bio. Je pense que le bio, pour qu'il soit intéressant, alors j'ai même pas parlé d'origine France, Espagne et compagnie, parce que évidemment c'est mieux si c'est local, c'est une certitude, mais c'est surtout que il faut que ce soit du produit brut qui soit cuisiné sur place. Je pense que Gilles...
Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que pour avoir...
Un plus bio, c'est quand même le premier réseau national de cantines bio. Donc c'est vrai qu'on a envie de savoir comment ça marche, comment ça marche, comment vous fonctionnez.
On a plus de 13 millions d'habitants qui sont couverts par les collectivités adhérentes. Et en fait, c'est assez complet pour avoir un repas qui soit bon, sain. Il faut plusieurs choses. Il faut des produits de qualité. Donc effectivement, il ne faut pas qu'ils soient ultra transformés. Donc il faut plutôt des produits bruts. Il faut qu'il soit bio parce que ça évite qu'il y ait des pesticides qui sont nocifs à la santé et à l'environnement. Il faut qu'il soit bien cuisiné et il faut que l'équilibre alimentaire soit respecté. Donc effectivement, ça fait énormément d'éléments à prendre en compte et peu de villes prennent l'ensemble des
éléments. Mais pourquoi tout le monde ne fait pas comme vous, ça coûte trop cher ?
Ben non, on a prouvé en plus que ça coûtait pas plus cher. Et c'est pour ça que moi je pense que le message essentiel qui a passé, c'est permettre aux gens justement de dépasser les freins qui apparaissent toujours. C'est trop cher et c'est pas local le bio. Voilà. Les élus, en général, c'est ce qu'ils disent. Ouais. Alors, c'est trop cher. On a prouvé que ce n'était pas vrai à Montsartou. Et l'Observatoire M plus Bio l'a prouvé parce que sur l'échantillon de 500 000 repas qu'on a, ce qui est quand même 250 collectivités, c'est assez important, ils sont à 32% de bio à 1,88 € par achat matière. Donc, c'est dans la moyenne du conventionnel. Et à Montsartou, c'est pareil. Et le deuxième point, c'est qu'on dit souvent « Oui, mais si on fait le bio, on va faire de l'importation ». Eh ben non, le bio, les communes qui intègrent du bio le font majoritairement local et jamais personne ne s'est posé la question d'où venait l'alimentation conventionnelle quand on parle de local en restauration collective.
Et la loi Egalim prévoit que d'ici 2022, la restauration collective devra proposer 20% de produits bio et 30% de labels de qualité ou local. Donc l'espoir est laissé à tout le monde.
C'est pas moi à la cantine et du coup, on mange pas beaucoup. Les omelettes, elles sont toujours ouvertes à l'intérieur. Et la viande, il y a plein de gras dedans. Quand on veut en découper un morceau, on peut pas puisqu'il y a une espèce d'élastique de gras qui le retient. Et ce qui est bien, c'est quand il y a la grève et du coup, on mange des raviolis.
Allez, c'est à vous, Natacha Triou, c'est l'heure de la Madeleine.
Oui, la Madeleine, et puis là, on parle de cantine, mais pour certains, rien ne vaut la cuisine de maman ou de papa. Alors, c'est l'acteur Omar Sy qui nous en parle. Il est actuellement à l'affiche du film Yao, un road movie initiatique qui a été tourné au Sénégal. Et alors, le comédien a grandi dans les Yvelines, mais sa famille, elle, vient de Bakel, un village frontalier de l'Est du Sénégal. Pour sa Madeleine, Omar Sy nous raconte une douceur de l'Afrique de l'Ouest. C'est une spécialité sénégalaise, mais la meilleure recette, c'est celle de sa mère.
J'ai plein de plats qui font ça. Mais par exemple, en vrai, mais la madeleine, j'aime bien en manger à des moments spécifiques, le chocolat chaud. Mais y a aussi un plat qui s'appelle le tchakri. C'est en fait du lait fermenté, genre un peu yaourt, mais un petit peu plus amer que ça. avec de la semoule de mil. C'est un plat sénégalais, c'est un dessert et j'adore manger ça. Et c'est vrai que ça aussi, ça me rappelle clairement mon enfance. Et c'est vrai que j'en mange à des moments particuliers. Et comme tous les plats d'enfance, on préfère évidemment ceux de sa mère. Et alors, des fois, on rajoute, alors ma mère, elle ajoute des fruits confits, un peu de sucre vanille et tout ça, c'est hyper bon. Et ben, du coup, je fais pareil que ma mère. Donc, c'est le chakri de ma mère que je préfère. Mais j'adore le chakri. Quand je ne peux pas l'avoir, des fois, je m'en fais un, moi, tout seul. Et après, chacun, il rajoute un petit peu ce qu'il veut. C'est ça que j'adore, d'ailleurs, dans tous les plats sénégalais. C'est chaque coin du pays où chaque personne a son petit ingrédient secret et que, en fonction de là où on va, on en goûte un petit peu différent. Mais rien de particulier, là, vraiment, on a la base et après, c'est à la création de chacun, quoi. Aussi que ma mère m'en donnait souvent le vendredi soir quand j'étais ado, parce que le vendredi soir on sortait, on allait faire la fête et tout. Mais le chakri, c'est un super bon plat, mais c'est bourratif. Et en général, quand on le mange, on a du mal à bouger. Et je sais que ma mère m'en faisait souvent le vendredi soir, et j'ai compris plus tard que c'était pour pas que je sorte, parce que ça me clouait sur le canapé, j'arrivais pas à sortir. C'était ça, c'était un genre de somnifère.
D'abord, on va manger.
Mais non, on s'est dit, moi, je dois être à Dakar demain soir, j'ai un avion.
Ça, ça se sait pas.
C'est lui qui nous a plantés, t'as bien vu?
Oui, mais j'avais fait à manger, ça se sait pas.
Bon, allez, mets ta ceinture.
Il y en a pas.
Bien sûr, j'en ai profité pour en manger des tonnes pendant le tournage. D'ailleurs, j'ai grossi à cause de ça.
Voilà, Omar Sy parlant de sa maman en l'occurrence. Et puisqu'on parle des mamans et des papas, que peuvent les parents, Sandra Fanronet, vous qui êtes dans un collectif donc de parents d'enfants dans des écoles du 18e arrondissement de Paris, qui a d'ailleurs donné ce livre, le livre noir des cantines scolaires. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les parents?
Comment ils peuvent agir? Vraiment, ce que je disais au début, pas juste regarder ce qu'il y a sur le menu, parce qu'il y a vraiment, il y a des parents qui ont l'impression que parce qu'ils lisent le menu et qu'ils regardent, ils savent ce que mangent leurs enfants.
Mais comment on lit un menu de cantine correctement?
On peut pas, en fait. On peut pas le lire correctement. Enfin, si on veut vraiment savoir, il faut aller manger à la cantine, en fait, déjà.
On peut ?
Ah ben oui, on peut. Alors, il y a des collectivités plus ou moins réticentes. J'ai appris que dans certaines collectivités, ça pouvait être vraiment très compliqué, réserver longtemps à l'avance. Bon, voilà, c'est plus ou moins facile, mais en tout cas, on peut. Et après, si possible, demander à visiter la cuisine ou la cuisine centrale. Normalement, c'est possible aussi pour se rendre compte ce qu'il y a sur les étagères, voir s'il y a une légumerie ou pas, parce que s'il y a une légumerie, ça voudrait dire qu'on pourra travailler des produits bruts. S'il n'y en a pas, ça veut dire que ça arrive en quatrième ou cinquième gamme, c'est-à-dire qu'ils sont déjà lavés, épluchés, conditionnés, ou alors que ça va être de la conserve, ou alors que ça va être du surgelé. Et regarder dans la partie épicerie s'il y a des fonds de sauce industrielle, ou au contraire, si on a des vraies échalotes, des vrais oignons. Et puis l'équipement, est-ce qu'on a juste des ouvre-boîtes, ou est-ce qu'on a vraiment du matériel pour pouvoir cuisiner?
Vous dites que ce qui est très important, c'est de regarder la sauce.
Pour oui, les fonds de sauce, c'est hyper important, parce que c'est préparer une sauce, on peut soit décider qu'on va utiliser des oignons, de l'ail, enfin bon, tout ce qui, voilà, mais ça demande un petit peu de temps, ça demande aussi de la motivation et de l'envie, ou alors, c'est quand même beaucoup plus simple, sinon, d'acheter un fonds de sauce industriel et puis de mélanger, d'ajouter ça. Or, ces fonds de sauce industriels sont gavés de sucre et d'additifs et compagnie.
Et parfois, les plats sont préparés avec quelques jours d'avance.
Ah bah oui, là, c'est
et
encore
réchauffés.
Ouais, ouais. Ça, c'est encore autre chose. Mais les sauces, en l'occurrence, donc, il y a qu'en allant manger et en allant visiter les cuisines qu'on peut savoir.
Gilles Perrol, en tant qu'adjoint au maire de Mouans-Sartoux, vous aimeriez, vous, que des parents viennent voir comment ça se passe dans les cantines? Vous leur permettriez de le faire?
Oui, il y en a qui sont déjà venus et d'ailleurs ça a été très positif parce qu'ils ont fait un super article après et ça a informé les autres parents. Après nous on communique beaucoup avec les parents sur la cantine, il faut informer ce qui est bio, il faut informer d'où viennent les produits et puis il faut avoir l'honnêteté de dire quel est le produit qui est surgelé, quel est le produit qui est industriel. Xavier de Namur d'ailleurs qui est un restaurateur parisien engagé propose des logos et nous à Mouans-Sartoux on les a repris. Et on informe exactement quel type de produits mangent les enfants, même si chez nous, à 90%, c'est brut.
Il y a la question du goût, il y a la question de la qualité des produits, et puis un autre point noir que vous soulevez d'ailleurs dans votre livre noir des cantines scolaires, Sandra Fanronet, c'est la question du gaspillage. Parce que de fait, quand les enfants se retrouvent à manger des omelettes qui sont un peu vertes à l'intérieur, et ben ils ne les mangent pas, ils les laissent, et donc on les jette, et donc ça gaspille beaucoup. Alors est-ce que, Gilles Perrol, manger meilleur permet de jeter moins?
Oui. Manger meilleur permet de jeter moins parce que les enfants mangent volontiers, mais ça n'empêche pas que même une très bonne cuisine peut générer des restes. Et il faut surtout apprendre à cuisiner la juste quantité et permettre à chaque enfant de manger, de se servir de la quantité qu'il souhaite. C'est ce qu'on a mis en place à Moinsartou, où on a individualisé les portions. Sur le self, il y a des petites portions, il y a des grosses portions, il y a un saladier pour se resservir. Et l'enfant, s'il n'est pas sûr, il prend la petite, et s'il a encore faim, il revient se servir. Et surtout, il faut arrêter de donner la même portion à tout le monde, qui génère, on le sait, un tiers de la quantité qui termine à la poubelle. Et nous, on a réussi à Moinsartou à diminuer de 80% le gaspillage alimentaire. Et c'est cette économie qui a financé le 100% bio à coût constant.
Alors, deux portions, petite faim, grosse faim, ouais. Sandra Moronet.
C'est une excellente idée. Je sais que dans d'autres collectivités, ils ont mis ça en place aussi, notamment à Poligny, dans le Jura, avec Christophe Demangel, donc un chef très impliqué. C'est pareil, et à la fin, ils ont même mis un bac à pain pour voir tout le pain qui était jeté, pour que les enfants prennent aussi conscience de ce que c'était que le gaspillage. Et donc, il y a ça pour le pain, il y a ça pour autre chose. Et lui, après, dit qu'il débriefe avec les étudiants en disant « Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gaspillage. Est-ce que c'est parce que c'était pas bon ce que j'ai fait ? Est-ce que c'était parce que vous êtes mal servi en termes de proportion ? Vous avez eu les yeux plus gros que le ventre ?» Donc, il y a vraiment toute une réflexion autour du gaspillage qui est très intéressante. Et je pense que la prise de conscience est indispensable.
Et la prise de conscience, c'est aussi donc toute la réflexion dont vous parlez, Sandra Franronet. Mais Gilles Perrault, c'est aussi une réflexion qui va jusqu'à l'éducation au goût ou au palais. Comment faire en sorte que les enfants aient un développement du palais qui leur permette justement eux-mêmes d'être un peu critiques ou d'être un peu réflexifs sur ce qu'ils mangent?
C'est extrêmement important et surtout sur les légumes, sur les produits réputés peu appréciés des enfants. À Moinsartou, ils mangent des épinards, des blettes, ils mangent des légumes tous les jours.
De saison ?
De saison, bien sûr, puisqu'on va les ramasser à 3 km.
On ne s'est pas donné à tout le monde de pouvoir les ramasser à 3 km, vous êtes d'accord?
Non, mais manger des légumes de saison, c'est donné à tout le monde. Et il suffit de regarder ce qu'on achète et de ne pas programmer des tomates en plein hiver, par exemple. Alors, ce qu'on voit très souvent, d'ailleurs, en restauration collective. Mais il ne suffit pas de décider qu'on donne beaucoup de légumes de saison pour qu'ils soient mangés par les enfants. Et sans accompagnement pédagogique, sans leur père. D'abord, il faut qu'ils soient bien cuisinés, mais aussi, il faut les accompagner dans la découverte. On sait que un aliment qu'ils n'ont pas l'habitude de manger, ils vont le manger plus facilement. Et justement, le fait de faire connaître les lieux de production aux enfants. Nous, c'est ce qu'on a fait sur les blettes. Ils vont les ramasser.
Comme comprendre la chaîne alimentaire, quoi, du champ
exactement
à l'assiette.
Exactement. Ils voient d'où ils viennent. Ils vont les ramasser. Et en s'étant occupés de ces légumes, ils ont noué une relation affective avec le légume. Et quand ils le retrouvent quelques heures après dans l'assiette, eh ben, ils le mangent très volontiers.
La cantine, c'est vraiment un lieu extraordinaire de découverte parce que c'est l'occasion de manger tout un tas de plats qu'on n'aurait pas l'occasion de manger chez soi. Et sans parler des menus du monde et compagnie qui permettent de découvrir des repas exotiques. Mais je veux dire, en fonction de ses habitudes familiales, on ne va pas manger tous les plats qui sont servis à la cantine, cuisinés par un chef qui va avoir d'autres inspirations. Donc en soi, c'est une super belle idée. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'il y a pas mal de parents maintenant qui se replient sur les lunchbox parce qu'ils ont peur de ce que mangent leurs enfants à la cantine. Et ce que je comprends et ce que je respecte, il n'y a vraiment aucun jugement. Mais c'est vraiment dommage parce que quelque part, si la cuisine à la cantine était faite dans les règles de l'art, c'est vraiment, un endroit extraordinaire pour découvrir à tout un tas de saveurs inconnues.
Vive les cantines 3 étoiles à venir peut-être, ce qui va nous permettre de passer à la cerise sur le gâteau de Catherine Roig. Merci à tous les deux, restez pour écouter la chronique.
Merci à vous.
Une étoile, ce serait déjà pas mal pour nos cantines scolaires. Catherine Roig, donc, le guide Michelin 2019 a paru cette semaine. Il a délivré ses étoiles de l'année et vous en avez fait une chronique.
J'en ai fait une chronique car il y a pas mal de femmes chefs étoilées cette année. Et quand je dis pas mal, ce n'est que 16%. 16%, c'est le pourcentage de femmes ayant reçu des étoiles Michelin le 21 janvier dernier, sur les 75 macarons distribués par le guide rouge. Alors, on va dire, c'est pas mal, parce qu'en 2016, elles étaient... elles étaient zéro, tiens. Et en 2018, elles étaient 2 sur 57.
Bon. Ah bah oui, alors c'est pas mal.
Alors, pour ne pas avoir l'air chagrine, je vais souligner que c'est une proportion de femmes inédite parmi les étoilés du guide rouge. Mais en y regardant de plus près, vous me connaissez Caroline, je suis un peu restée sur ma faim. Car comme chacun sait, le Graal du Michelin, ce sont les 3 étoiles. Or cette année, Comme la plupart des autres années, seuls deux hommes ont reçu cette récompense suprême, à savoir Laurent Petit du Clos des Sens à Annecy et Mauro Colagrico du Mirazur à Menton. Alors certes, ces hommes sont formidables, mais à l'heure qu'il est, Anne-Sophie Pic reste la seule femme triplement étoilée en France, ce qu'elle est depuis 2007, et donc la seule représentante du sexe féminin sur le haut du podium.
Il y en a quand même qui ont deux étoiles. Alors c'est une de moins, mais c'est déjà pas mal, non Catherine ?
Ne nous emballons pas, Caroline. En effet, il y a une femme chef en France qui a aujourd'hui deux étoiles. Il s'agit de Stéphanie Lekelec qui vient de les recevoir donc cette semaine. Si elle peut afficher deux étoiles désormais sur sa veste de chef, franchement, ça fait longtemps qu'elle aurait pu les décrocher. Bon, moi ce qui me plaît pas du tout, c'est que les autres chefs primés plafonnent à une étoile sur tout le territoire et on ne peut que le déplorer. Pourquoi ? Parce qu'il existe plus de 500 femmes chefs de qualité en France et qu'à ce rythme-là, il va falloir attendre l'an 3000 pour atteindre la parité.
Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-unes de ces chefs qui ont donc décroché le tiers de Graal ?
Et comment ? Je vous propose un petit tour de France pour vous les présenter. Commençons par la Bretagne, puisque trois chefs y ont été primés, ce qui est une grande première, puisqu'il n'y en avait aucune jusqu'à présent. À Plougon-Velin, dans le Finistère, Nolwenn Corr a repris l'affaire familiale, c'est-à-dire l'hôtellerie de la Pointe Saint-Mathieu. Sa cuisine met en valeur les extraordinaires produits de la mer de ce bout du monde. Tout comme celle de Laetitia Cosnier, récompensée pour les plats qu'elle cuisine à quatre mains avec son mari, Stéphane. Moi, je rêve de leur mi-cuit de langoustine au carigos, le carigos étant un mélange d'épices créé par un pharmacien du 19e siècle à Lorient, Lorient ex-comptoir de la Compagnie des Indes. Et j'aimerais bien vous en reparler un jour. À Rennes, c'est la chef Virginie Giboire qu'il faut aller voir. Dans son restaurant Racine, avec un S, elle célèbre les noces du foie gras, du vin rouge et de la betterave, entre autres. Au nord, chez Roseau, R-O-Z-O, au cœur de Lille, on a envie de dévorer les desserts de Camille Payot. Car oui, Camille est chef pâtissière. Et je pense qu'un vacherin glacé au pamplemousse, au thé matcha et au poivre timout pourrait nous plaire. Mmh. Après ça, on descend en piqué sur l'Île-de-France où l'on a de merveilleuses découvertes à faire aussi du côté des femmes chefs. À Pontoise, je vous conseille l'Orchidée, la table de Naoël Desnaux. Vous risquez de la reconnaître puisque, tout comme Stéphanie Lekelec, elle a gagné un célèbre concours télévisé de cuisine il y a quelques années. Aujourd'hui, elle fait la joie de ses clients avec ses oignons de Roscoff en croûte de pain aux noix et autres pigeons laqués au miel de fleurs sauvages. À Paris, alors là, les talents féminins se bousculent, c'est l'embarras du choix. Chez Bayetta, la très jeune Julia Sedef-Djian cuisine, elle est niçoise, hein, donc cuisine de façon méditerranéenne et c'est magnifique. Shiho Manzaki, qui est japonaise, chez Virtus, apporte sa touche céleste aux recettes qu'elle met au point chaque jour avec Marcello Di Giacomo.
Et puis je me souviens que vous nous aviez parlé d'une certaine Amélie Darvas, Catherine Roig,
Amélie
pour finir
Darvas.
Ce Tour de France.
Elle est dans le Haut-Languedoc. Elle a repris là-bas un ancien presbytère dans lequel elle a installé son restaurant avec Gabi Benicio qui travaille avec elle et qui est sommelière. Elles ont ouvert ça l'été dernier dans cet environnement absolument magnifique. Elles ont créé un potager bio qui plairait à Gilles, et propose des plats de haute tenue comme les petits coussins de maïs violet à la crème fumée ou les tagliatelles de sèche au chorizo. Bref, elles sont toutes formidables et elles méritent amplement leurs étoiles. Mais j'ai quand même envie de demander aux instances du guide Michelin de faire un effort afin que l'année prochaine, je ne puisse plus citer toutes les nouvelles chefs étoilés dans une chronique de 3 minutes.
Chiche. Chiche, Catherine. En tout cas, cette chronique de Catherine Roig, on peut la retrouver sur le site des Bonnes Choses si vous n'avez pas pu noter une par une le nom des chefs et de leurs restaurants. Merci, merci Gilles Bérol, merci Sandra Franronnet, merci Catherine. Les Bonnes Choses se poursuivent en réécouté en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Stéphanie Villeneuve, Aigoui Chichkoyan, Natacha Triou, Jean-Christophe Francis et notre technicien du jour, Jacques Hubert, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal, suivi de Signes des Temps par Marc Weissmann.